Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. Aujourd'hui, on va parler de journalisme, mais aussi de journalistes minorisés. On va parler en effet des journalistes LGBT et racisés en Belgique francophone. C'est avec vous, Elena Loison. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de soutenir une thèse en sciences de l'info et de la communication traitant de ce sujet. Donc, quel était le titre de votre thèse, à peu près ?
Donc, c'était « La diversité à l'épreuve des rédactions » avec le sous-titre « Expérience professionnelle de journalistes LGBT et de journalistes racisés ». Et c'était vraiment pour insister sur la notion de diversité qui circule un peu depuis une vingtaine d'années dans le monde des entreprises, dans le monde des médias, en opposition avec le vécu de ces journalistes qu'on va parfois désigner comme appartenant à la diversité et qui en fait est parfois un peu plus complexe que ça.
Ok, donc en fait l'idée, c'est donc quand je disais minorisé, c'est peut-être pas tout à fait la bonne, le bon terme. J'aurais pu évidemment utiliser en effet diversifié, diversé.
Justement, je parle de journalistes minorisés dans la thèse pour insister. Donc il y a cette idée de diversité qui est une idée, enfin comment dire, c'est un terme qu'on va beaucoup retrouver dans le monde des entreprises. Voilà, depuis le début des années 2000, les politiques publiques, etc. Et donc quand on va parler de ces personnes, on va avoir tendance à parler de diversité. Et finalement, pas de racisme, pas de LGBT-phobie. Et donc, parler de personnes minorisées, c'était reprendre, vous savez, aussi les théories de Colette Guillaumin, donc la minorisation sociale, cette idée qu'on n'est pas une minorité dans l'absolu, mais qu'il y a un processus qui nous minorise, ce qui veut dire que donc des personnes, par leurs actions, participent à nous inférioriser. Et donc, c'était pour insister, pour mettre l'accent plutôt sur c'est quoi ce processus concrètement, donc dans le cadre des rédactions, dans le cadre du journalisme. Mais voilà, c'est un cas théorique qui est beaucoup repris depuis une vingtaine d'années pour parler des questions de discrimination. Donc c'était pas du tout une erreur de parler de personnes minorisées, c'est vraiment le terme que j'emploie. Si le mot diversité revient dans le titre, c'est plutôt pour les resituer justement donc, ces discours institutionnels face à leur statut de personne minorisée. Et donc revenir à de qui on parle finalement quand on parle de diversité. Et donc souvent quand on parle de diversité, il y a cette idée que c'est un apport, c'est positif, que les personnes, elles détiendraient des compétences un peu indirectes liées à leur vécu parce qu'elles sont des personnes racisées, parce qu'elles sont des personnes LGBT, parce qu'elles sont porteuses d'un handicap. Et donc, c'est revenir au fait que, oui, on présente ça de manière systématiquement positive, valorisante, et qu'en fait, derrière, il y a des processus discriminatoires. Et donc, c'était revenir à ces processus discriminatoires.
Alors c'est marrant de dire minorisé parce qu'il y a quelques années, on a reçu dans le même studio d'ailleurs, derrière le même micro, Florence Le Cam et son équipe, où là on parlait, et Lise Ménalque d'ailleurs, et là on avait parlé de journalisme et de genre en fait, et que donc les femmes aussi étaient minorisées finalement. Donc c'est toujours comme ça, en 2026, un journaliste type, c'est un homme blanc.
Oui, il n'y a pas forcément d'évolution vraiment majeure perceptible. Donc on a une enquête quinquennale qui s'appelle Portrait de journaliste. Je ne sais pas en quelle année vous avez reçu Florence Le Cam, Manon Libert et Lise Ménalque, mais la dernière étude date de 2023, les chiffres datent de 2023, et il n'y a pas vraiment d'évolution perceptible, c'est-à-dire que les femmes restent, je crois, de mémoire 35% du groupe professionnel. Ça évolue selon les âges. Quand on prend les plus jeunes journalistes, il y a beaucoup plus de femmes. Donc voilà, mais au global, il y a quand même toujours ce manque de femmes. Et donc, c'est une remarque très pertinente de parler des femmes à ce moment-là, puisque oui, selon moi, les femmes sont aussi un groupe minorisé. Disons que dans le cadre d'une recherche, il fallait faire des choix à ce niveau-là. Et j'ai choisi de ne pas forcément faire du genre la variable principale, dans le sens où déjà d'autres travaux s'y intéressent. Et puis, il y avait selon moi un petit manque, un gros manque en fait, de recherche sur les personnes racisées, sur les personnes LGBT. Donc le genre n'est pas du tout absent, c'est plutôt qu'il va être articulé à la catégorie minorisée. Donc on n'est pas juste une personne racisée, on est un homme ou une femme racisée. On n'est pas juste une personne LGBT, les vécus ne sont pas les mêmes si on est un homme gay, une femme lesbienne, une personne bi, etc. Mais donc voilà, vous avez tout à fait raison de souligner que les femmes également sont des personnes minorisées.
Mais donc en gros, dans une rédaction, on trouve essentiellement, rédaction au sens général du terme, on ne va pas cibler des médias. Vous n'avez pas ciblé de médias d'ailleurs dans votre étude. Vous avez plus ciblé des personnes, vous avez
recherché en tout cas,
des personnes avec des profils particuliers.
Oui, tout à fait. Donc moi, l'idée, c'était vraiment, vraiment, vraiment de s'intéresser à c'est quoi être une personne minorisée dans une rédaction. Donc l'idée, voilà, c'était de repartir de ces grandes enquêtes portraits de journalistes où, vous l'avez dit, le portrait type, c'est un homme supposément blanc, de parents belges, qui a plutôt la cinquantaine, qui est plutôt de famille CSP+, etc. Et de voir... Donc cette figure, elle est numériquement majoritaire. C'est quoi être journaliste quand on n'est pas cet homme blanc cis-hétéro, pour le dire comme ça?
C'est plus rapide en effet. Et donc on remarque en fait, point de départ peut-être de votre étude, je ne sais pas si c'est le point de départ, mais qu'en fait finalement les rédactions sont donc peu diversifiées et que ça peut entraîner finalement un manque de diversité dans les sujets traités. C'est corrélé.
Alors exactement, c'est vraiment ça le point de départ. C'est, de mon côté, ce n'était pas forcément de me dire il y a un manque de personnes dans les rédactions, donc il y a un manque de représentativité dans les contenus. C'était plutôt de partir des discours institutionnels qu'on va tenir dans le journalisme à ce propos. Donc c'est-à-dire depuis... 2005-2010, plutôt 2010 dans le cas de la Belgique francophone, va y avoir ce discours de dire la diversité, et en parlant du mot diversité. C'est important parce que regardez, donc il y a ces enquêtes du CSA qui se multiplient depuis la première, je crois que c'est 2009 en Belgique francophone, il y en a eu plusieurs après 2011, 2013, etc. Chacune de ces enquêtes montre que globalement, il y a une sous-représentation de certains groupes sociaux dans les contenus proposés dans les médias, en tout cas ceux étudiés par le CSA. À partir de ce constat, une fois qu'on a identifié ce problème, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Et il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées. Par exemple, on a lancé l'AJP a lancé un...
Donc, l'AJP, c'est l'Association des journalistes professionnels.
Oui, excusez-moi, merci, oui. Donc l'Association des journalistes professionnels a lancé un annuaire avec des experts et des expertes qui sont des personnes minorisées, donc c'est des femmes ou des hommes, mais des hommes qui appartiennent à un groupe minorisé. Et cet annuaire va être accessible aux journalistes pour qu'ils et elles cherchent, enfin trouvent en l'occurrence, plus facilement des sources, des experts, des expertes qui ne soient pas toujours des hommes blancs qui sont effectivement ceux qu'on voit le plus dans certains sujets. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont pu être mises en place. Il y a eu des lexiques, comment parler de la migration, des chartes, comment parler de l'écologie, etc. Voilà, il y a eu des initiatives comme ça. Le CDJ, le Conseil de déontologie journalistique, s'est aussi penché sur ces questions ces dernières années. Mais globalement, le point de départ, c'était cette idée quand même qui est assez répandue, pas qu'en Belgique francophone, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en France, que si les contenus ne sont pas représentatifs, c'est parce que les personnes des groupes sous-représentés ne sont pas dans les rédactions. Donc c'est faire un lien quasiment organique entre la présence de personnes et leur représentation dans les contenus. Et donc la thèse part de ce postulat que vont avoir beaucoup les politiques publiques, voilà, qui est de dire qu'il y a ce lien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et si je m'avance un tout petit peu peut-être dans l'interview, la réponse a l'air d'être que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce n'est pas juste avoir des personnes concernées qui va régler le problème. Il y a des choses beaucoup plus structurelles qui rentrent en jeu.
Parce que si on parle de personnes concernées, donc qui seraient à ce moment-là engagées pour finalement proposer cette diversité, est-ce que ces personnes sont preneuses finalement d'être quelque part les porte-parole d'une communauté?
Alors, c'est une question très compliquée, parce que va y avoir plein d'éléments qui vont rentrer en compte de la vie des gens, des enjeux de génération, d'âge, etc., d'époque à laquelle on est rentré dans la rédaction. Et globalement, ce n'est pas parce qu'on appartient au même groupe minorisé que deux personnes vont avoir les mêmes vécus, les mêmes envies, etc. Donc ça, c'est valable, bien évidemment, bien en dehors du journalisme. Et donc, le positionnement des journalistes peut être un peu ambigu, parce que, en gros... Il y a une partie des journalistes qui vont vivre cette demande. Elles ne sont pas forcément recrutées pour ça, les personnes.
Enfin, on ne les recrute pas uniquement qu'elles font partie de cette...
Je n'ai pas eu de récit de personnes qui pensent avoir été recrutées uniquement pour ça. Ou peut-être une ou deux, et ce ne serait pas uniquement pour ça dans tous les cas. Il y aurait d'autres facteurs qui rentreraient en jeu. Parfois, on est content de se dire, bon, cette personne, en plus, peut-être peut nous apporter ci ou ça.
On n'est pas dans un phénomène de quota, en fait.
Non, clairement pas.
On ne se dit pas, tiens, il nous faut notre quota de personnes racisées pour les sujets racisés, le quota de LGBT pour les sujets LGBT.
En tout cas, si c'est le cas, ce n'est pas dit. Et les journalistes ne le disent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas...
Ouais, ça, on ne sait pas.
Voilà. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que la thèse a pu objectiver. En revanche, ce qui peut se passer, c'est donc des journalistes qui sont là et à qui on va peut-être demander un peu plus fréquemment d'aller faire certains sujets sur un groupe social dont on va supposer qu'elles sont proches. Là-dessus, les positionnements des journalistes sont vraiment pas les mêmes selon déjà leurs groupes sociaux et puis plein d'autres facteurs que leurs groupes sociaux, dans le sens où il m'a semblé que les personnes racisées vont un peu fuir ce genre de demandes qui en fait sont vécues comme des assignations raciales, ou pourquoi vous me demandez ça ? Parce que je suis qui je suis. Donc là-dessus, voilà, il va y avoir une tendance à un peu fuir ça, tout en revendiquant, tout en considérant plutôt que revendiquant en fait, qu'on est détenteur, détentrice d'une expertise particulière. J'ai ce vécu, je connais ces choses-là, je connais ces personnes-là, donc je pourrais être une plus-value, un atout, mais je suis assez mal à l'aise finalement qu'on me le demande, parce qu'en fait c'est toujours dans l'implicite. On vous dit jamais très clairement pourquoi c'est à vous qu'on va le demander, vous le devinez. Vous comprenez qu'on ne le demande pas aux autres, vous voyez bien qu'on ne le demande pas aux autres, et qu'on le demande à vous, donc vous finissez par comprendre. Aussi parce que vous savez dans quel monde vous vivez. Donc ça peut être fort rejeté par une partie des enquêtés. Il y a une autre partie des enquêtés qui sont plutôt les... dans la thèse, hein. C'est peut-être un biais complet de l'échantillon que j'ai interrogé, c'est les hommes gays en fait qui vont être plutôt demandeurs, qui vont être plutôt contents qu'on leur demande, déjà parce qu'ils estiment être détenteurs d'une expertise, parce qu'on quand on leur demande des choses sur les milieux LGBT, on reconnaît leur expertise en fait, et parce que plus on vous reconnaît votre expertise, plus vous pouvez éventuellement la faire reconnaître et la faire valoriser à d'autres échelles que juste un sujet ponctuel. Devenir un peu l'expert des questions LGBT ou parfois des questions féministes dans votre rédaction, et ça peut être... En tout cas, vous pouvez essayer de mettre en place des choses pour que ça vous bénéficie professionnellement. C'était pas forcément le cas des femmes LGBT, donc des femmes lesbiennes, des femmes bi, queer, etc. dans la thèse. C'est pas quelque chose qui ressortait pour une raison très simple, qui est que mettre en place cette valorisation de son vécu comme une compétence, ça demande d'être visible, d'être out dans sa rédaction, ce qui était beaucoup moins le cas des femmes du groupe des journalistes LGBT que j'ai interrogées. C'était peut-être 2 sur 12, quelque chose comme ça, qui correspond à ce que la littérature scientifique tend à montrer, qui est que les femmes LGBT sont beaucoup moins out que les hommes. Et donc ça avait une conséquence à ce niveau-là, qui est on va un peu moins leur demander. Et quand on leur demande, elles n'ont pas la sensation qu'elles pourront en bénéficier professionnellement.
Donc un problème de légitimité
Je ne pense pas que c'était un enjeu de légitimité. Je pense que pour penser qu'on peut convertir son vécu en compétence, ça demande de détenir tout un ensemble de capitaux qui sont peut-être différemment répartis et peut-être plus accessibles chez les hommes. En termes d'assurance, de confiance en soi, des choses comme ça. Donc voilà, il doit y avoir plein d'éléments qui rentrent en compte, mais c'est une partie de la thèse, comment dire. Je dirais que ça, ce serait le prolongement de la thèse, en fait. Okay. De qui s'empare de ces injonctions, qui essaie de les faire fructifier. Il y avait aussi des... Je disais que, voilà, pour beaucoup de journalistes racisés, ça pouvait sembler être une assignation raciale. Il y en avait plusieurs, notamment dans les plus jeunes générations, des journalistes qui, aujourd'hui, ont à peine 30 ans, pour qui, au contraire, le fait d'être une personne racisée et d'être perçue comme telle était envisagé. J'insiste sur le « envisagé » comme quelque chose qui pourrait leur bénéficier professionnellement. Donc on va beaucoup insister sur « je maîtrise telle langue, regardez mon nom de famille, etc. Enfin, » on visibilise qui on est, c'est valable aussi pour les hommes gays. Hein. Donc la condition première, ça va être vraiment de visibiliser qui on est. Et là, on rentre vraiment dans des choses qui sont évidemment différentes pour les personnes racisées et les personnes LGBT, mais il y a un enjeu de dire qui on est, le visibiliser, l'affirmer, pour du coup... que les gens nous sollicitent, etc., pour répondre à ces sollicitations. Donc à la fois, il y a un phénomène d'assignation, il y a tel sujet, on est content d'avoir telle personne pour aller le traiter, et à la fois, il y a des journalistes qui sont en demande. Maintenant, je crois qu'à ce niveau-là, et pour refaire le lien avec le postulat du début, je crois que le résultat de la thèse le plus... Enfin, en tout cas, moi qui m'a le plus intéressé et intrigué, c'est le fait que, pour les journalistes qui acceptent de répondre à ces attentes et qui finalement répondent à ce postulat. Donc oui, j'existe dans cette rédaction, j'ai peut-être ces compétences liées à mon vécu, je vais les faire valoir si vous me le demandez, et parfois même si vous me le demandez pas. Ce qui ressort, c'est qu'en fait, ça rajoute beaucoup de travail de faire ça, d'avoir cette position. C'est pas du tout quelque chose qui est neutre et qui... la journée est plus longue si vous faites ça de manière structurelle, permanente. Pourquoi ? Parce qu'en fait... pourquoi ce postulat d'avoir des personnes, j'ai des personnes minorisées dans ma rédaction, alors j'aurai des contenus plus diversifiés. Pourquoi finalement il ne se vérifie pas complètement ? Parce qu'en fait, le journalisme, comme beaucoup de métiers, repose sur des routines pour la production d'informations. Et on a des manières routinières de produire l'information qui, en fait, on se les transmet entre journalistes. C'est ce qu'on apprend aussi dans les formations en journalisme, c'est comment je fais, il est 13h, j'ai un journal à 18h, comment je fais pour avoir mon reportage? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour être sûr qu'il y ait quelque chose? Ça va être des carnets d'adresses qui font, comment dire, des bases de contacts dans les rédactions qu'on se partage, et finalement les gens apportent peu de leurs contacts eux-mêmes, ou pas toujours. Ça va être les manières d'envisager où est-ce qu'on va aller pour interviewer des gens. Si un sujet paraît trop dur à 13h, on va pas le faire pour 18h. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un ensemble de manières de faire pour produire de l'information qui fait que c'est pas uniquement la volonté d'un journaliste tout seul qui va faire que ça va être vraiment beaucoup plus diversifié à l'échelle d'une antenne. Et donc, pour revenir sur le fait que ça rajoute du travail, en fait, diversifier les contenus, pour le dire comme ça, ça demande d'aller un peu contre le sens du vent. C'est des contacts différents, des idées de sujets différentes. Et du coup, ça va leur demander du travail supplémentaire. Ça va leur demander parfois de faire des traductions. Ça paraît idiot, mais ça prend un peu plus de temps, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Ça va être vos collègues qui vont vous solliciter. « Ah, tu peux relire mon papier pour vérifier que j'ai pas dit de bêtises, qu'il est pas, comment dire, qu'il est safe pour les personnes qui vont le lire, etc. » C'est un peu devenir l'expert de sa rédaction, quoi. Et donc, c'est des petites sollicitations à droite à gauche. C'est aussi du travail qu'on se rajoute soi-même. On part en reportage. On veut absolument qu'il y ait au moins une femme dans le sujet qui parfois s'y prête pas forcément. Et on va passer 10, 15, 20 minutes de plus pour en trouver une qui accepte de répondre. Voilà. C'est un ensemble de petites choses qui fait que ça rajoute du travail et que c'est professionnellement pas forcément si intéressant que ça.
À la mare, j'en continuera chacun pour soi. De retourner la page des souvenirs lointains, la charge de revanche, décharger le venin. Le temps que ça démange, autant que besoin est soudain. De long en large, on se racontera orphelin, survivant d'un naufrage, seul témoin de courage. On se remettra dans le bain, traverser à la nage ou rebrousser le chemin.
Le temps de plier bagages sans regret.
puis c'est un peu un côté de travail invisible et de, enfin je vais pas dire travail gratuit parce que voilà, mais c'est une surcharge de travail et qui finalement devient une surcharge constante avec un travail assez invisible finalement, c'est ce que vous dites à un moment il me semble. Dans un de vos articles.
Oui, oui, exactement. J'ai navigué autour du terme travail gratuit. On peut avoir des grands débats et on en a eu à la soutenance si c'est le concept le plus pertinent. Je n'en suis pas certaine moi-même, mais on navigue en tout cas autour de ces manières-là de théoriser le travail. Pour moi, c'est un minima du travail supplémentaire et du travail qui est invisible. Et en plus, donc, à toutes ces missions que dans lesquelles j'ai pas forcément complètement détaillé, qui vont se rajouter, il y a aussi cette idée que on est dans un métier, c'est pas le seul, où il y a un objectif, une ambition de neutralité, une ambition d'objectivité ou de désengagement. Enfin voilà, on peut appeler ça comme on veut, et que c'est des sujets parfois, les sujets qui concernent les groupes minorisés, qui peuvent être perçus comme des sujets engagés. C'est pas systématique. Si par exemple on finit par en parler parce qu'il y a un projet de loi qui concerne, je sais pas.
La PMA.
Voilà, très bon exemple. La PMA, là, ça va pas forcément être considéré comme militant d'en parler, puisque c'est dans l'actualité, c'est pas vous qui l'apportez, etc. Mais en dehors de sujets un peu comme ça, qui s'imposent d'eux-mêmes, en parler, on peut considérer, on peut parfois se dire que peut-être cette personne est engagée, qu'elle n'est pas neutre par rapport à ce sujet. Et donc, il y a une espèce de tension globale, où, à la fois, donc, on peut vous solliciter pour travailler sur ces questions, et vous pouvez en tirer un peu une forme de bénéfice ou une reconnaissance. Et en même temps, il y a toujours au-dessus de vous quelque chose qui va planer, qui est le « mais est-ce que cette personne n'est pas engagée ?» et devenir une personne qui peut être considérée comme telle dans sa rédaction. Donc à la fois, il y a ce travail supplémentaire que ça va entraîner, mais en même temps, il peut y avoir un coût pour les journalistes à s'emparer de ces questions. Ce qui fait que, à nouveau, pour revenir au postulat de départ, donc on a des journalistes de tel groupe social, ils et elles vont faire des sujets sur leur groupe social. Au milieu, il y a ça. Au milieu, il y a le travail supplémentaire. Au milieu, il y a le « je risque de passer pour militant-militante ». Donc, ce que disaient beaucoup les journalistes, la plupart, en fait, ne s'engagent pas pour traiter des contenus sur leur groupe social. Ce que disaient les journalistes, c'était un peu la crainte de passer pour engagé. En particulier les femmes qui, en plus, ont déjà cette épée de Damoclès, même quand elles sont des femmes blanches, des femmes cis, des femmes hétérosexuelles, elles sont déjà perçues comme, de manière générale, moins neutres ou potentiellement plus engagées que leurs collègues. Donc elles ont quand même cet enjeu-là. Et donc quand ça vient s'ajouter à « je suis une personne racisée, je suis une femme LGBT », c'est des choses qui sont vraiment compliquées. Donc,
c'est hyper paradoxal alors.
Oui, complètement. Complètement. Parce que donc, pour moi, je crois qu'il y a cette tension entre ce discours sur la diversité qu'on a depuis 20-25 ans maintenant, qui consiste à dire « avoir des personnes, c'est une richesse, elles vont nous apporter des savoir-faire, une expertise que nous n'avons pas, car de par leur vécu, elles sont peut-être détentrices de compétences, de savoir-faire que nous n'avons pas, et donc il nous les faut, c'est super ». Donc c'est une manière implicite de tenir ce discours sur la diversité, de reconnaître que le vécu, potentiellement, peut être une compétence dans l'absolu. Et en même temps, là, ça se croise au milieu du journalisme, et je pense que ça pourrait s'appliquer complètement au milieu de la recherche également, où on va avoir des normes de désengagement, des normes d'objectivité, de neutralité, qui ne vont pas forcément valoriser la subjectivité, ce qu'on pourrait appeler les savoirs expérientiels, qu'en fait la diversité valorise. Parler de diversité, c'est valoriser des savoirs expérientiels. Les discours sur la neutralité et l'objectivité ne les valorisent pas. Et donc, il y a une tension qui, je crois, est aussi propre à certains secteurs professionnels où ce discours sur la diversité n'est pas propre au journalisme. On le retrouve dans vraiment le secteur de l'entreprise avec un E majuscule depuis le début des années 2000. Mais quand il arrive dans certains secteurs, il va s'hybrider aux normes professionnelles de ce secteur. Et je crois, dans le cas du journalisme, qu'il s'est hybridé à des normes professionnelles qui ne permettent pas complètement à ce discours sur la diversité de se déployer complètement. Donc on a une envie dans ce milieu-là d'avoir des discours, des idées de sujets différentes, une manière d'appréhender l'actualité différente, des nouvelles idées de sujets, enfin voilà. Il y a cette envie, mais ça, dans pas mal de cas, ça vient se heurter à des normes professionnelles qui ne vont pas favoriser l'expression de ces savoirs expérientiels et qui, en fait, peuvent devenir même coûteux pour les journalistes qui les portent.
Ça, il y a un côté, en fait, on ne croit pas à l'objectivité, du coup, de la personne. Enfin, l'objectivité, sachant très bien que l'objectivité n'existe pas, la neutralité non plus, mais qu'on va parler plutôt peut-être de partialité. En fait, ces personnes-là vont être partiales parce que si d'office on est issu d'une minorité ou d'un groupe minorisé, on va d'office être militant quelque part.
Alors, il y a cette idée-là. ce que je peux dire en tout cas à l'échelle de la thèse, donc j'ai interrogé 61 personnes au total, c'est que il y a une impression assez globalement partagée que plane sur soi une accusation plus ou moins explicite, parfois très latente, d'engagement. Certains, certaines l'ont vécu très explicitement, vont avoir eu des reproches, enfin je dis très explicitement, ça va souvent être sur le ton de la blague en fait, mm-hmm. On va te traiter de woke, on va te traiter de féministe, des choses comme ça. Donc voilà, il y a ça qui existe pour à peu près un tiers, la moitié des journalistes interrogés. L'autre moitié n'en a pas forcément vécu des moments où on va les assigner à une position militante, parce que c'est une assignation. Et ces personnes vont vraiment avoir la sensation que, du fait d'être qui elles sont, et vraiment c'est lié à leur identité, si je peux utiliser ce terme-là, on va leur prêter moins d'objectivité, moins de neutralité. Mm-hmm. Dans la thèse, quelque chose qui ressort aussi, c'est donc, il y a deux groupes principaux, journalistes racisés, journalistes LGBT, avec évidemment des personnes qui appartiennent à ces deux groupes, et tout ça c'est croisé au genre. Les personnes racisées, vraiment, ça a l'air d'être, de ce qu'elles racontent, en tout cas de ce dont elles témoignent, quelque chose de quasiment systématique. Tu es une personne racisée en rédaction, tu pars avec vraiment 10 km de retard, il va falloir que tu les remontes pour prouver que tu es aussi neutre que les autres. C'est vraiment, on a du mal. Il y a un journaliste qui disait, le verbatim, c'est quelque chose comme un arabe dans une rédaction, on va partir du principe qu'il est forcément de gauche, il ne peut pas être de droite, et donc on doit trimer, nous, pour montrer notre neutralité. C'est comme ça qu'il l'exprimait. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très partagé chez les journalistes racisés interrogés. Les journalistes LGBT, c'est beaucoup plus nuancé, dans le sens où les femmes LGBT donc, vivent avec cette épée de Damoclès, à la fois en tant que femme et personne LGBT, du manque de neutralité. Par ailleurs, les hommes du groupe des journalistes LGBT, qui sont quasiment tous des hommes blancs, c'est très intéressant, puisqu'ils rapportent beaucoup moins que les autres cette accusation de partialité, ou en tout cas l'impression que, a priori, on va leur reprocher ça. Il y a des hommes de ce groupe que j'ai interrogé qui vont subir des assignations à l'engagement, une présomption de partialité, etc. Mais ça venait en aval de prise de position réelle, là où les autres, ce n'était pas le cas. Mmh.
Donc là, oui, à la limite, c'est encore différent, mais en même temps, c'est des hommes blancs.
Voilà, je...
C'est moi qui fais un raccourci, alors, du coup.
C'est pas un raccourci. Mais il semble que ce groupe social-là soit encore relativement protégé par la masculinité, par la blanchité. Là où la blanchité ne semble pas complètement protéger les femmes du groupe des journalistes LGBT, et là où clairement les journalistes racisés ne bénéficient en aucun cas de ça, et ne bénéficient pas non plus de leur masculinité. Dans un espace, encore une fois, qui est connu dans plusieurs enquêtes statistiques pour être masculin et blanc.
C'est un côté discriminatoire ou pas à ce point-là ?
Qu'est-ce que vous appelez par discriminatoire ?
Qu'en fait, suivant votre origine ou votre orientation sexuelle ou votre appartenance, on va faire plus court, à la communauté LGBT, un traitement différent vous est réservé, voire même discriminant. On parlait tantôt le woke de service, le féministe de service, l'arabe de service, le PD de service, je ne sais pas.
Alors, j'ai une micro-prudence à parler de discrimination dans le sens où, dans la thèse, j'ai réservé le terme pour certains traitements. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre entier où sont présentées un peu la manière, c'est quoi donc être une personne minorisée dans une rédaction, dans des espaces où on est numériquement minoritaire aussi. Et ce qui ressort, c'est beaucoup de violence, beaucoup d'assignation, mais souvent très indirect, sur le ton de la blague.
C'est ce qu'on disait
sur le ton,
ouais.
Voilà, exactement. Des petites choses qui pourraient passer de manière très anodine, en fait, si on n'y prête pas attention. Le journalisme, ça reste une profession de classe supérieure. Et les classes supérieures sont réputées, en tout cas en sociologie, pour ne pas montrer de manière frontale leur racisme, leur sexisme, leur homophobie, dans un geste aussi, distinctif vis-à-vis des classes populaires, qui, elles, sont présumées par les classes supérieures comme le montrant de manière plus ouverte, plus manifeste. Et donc, il y a un grand pan de la littérature sur les discriminations contemporaines qui va montrer qu'aujourd'hui, la manière dans ces milieux sociaux d'exprimer ces discriminations, elle va se faire de manière vraiment très, très indirecte. Et donc, ce qui ressort dans la thèse, c'est que c'est beaucoup autour de l'humour, beaucoup de blagues en fait, de blagues où on ne vous dit pas vraiment clairement la chose. Et si vous vous révoltez contre ce qu'on vous dit, on va vous dire « mais t'as pas d'humour ouais. ». Le classique qu'ont vécu beaucoup de personnes minorisées. Mais en dehors de ça, il y a peu d'insultes directes ou en tout cas directement adressées à la personne. Ce qu'il va y avoir aussi, c'est on va tenir des propos insultants, des moqueries envers parfois des sources. dans tel sujet, tu dois interroger telle personne, on va se moquer de telle personne. Des propos, parfois, je veux dire, qui d'un point de vue pénal pourraient être qualifiés d'insultes. Hein. Donc c'est jamais contre soi, c'est contre son groupe social. Pour les journalistes, c'est quand même assez équivalent. C'est-à-dire qu'on sait très bien que nous, on nous accepte, mais notre groupe social ne l'est pas en réalité. Et donc voilà, et donc dans la thèse sont décrites ces violences-là, ces blagues-là, enfin cette manière, on va assigner les hommes à l'hypersexualité, on va assigner les hommes LGBT, on va assigner les hommes racisés à l'hyperbrutalité, les femmes à une espèce d'hystérie militante, etc. Beaucoup autour de la blague, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de... Mais la question de la discrimination, pour revenir à comment je l'ai traité, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à répondre à cette question, c'était plutôt les traitements discriminatoires dans le cadre professionnel. Donc des journalistes qui, par exemple un journaliste gay qui n'a eu aucune promotion en 20 ans et qui pense que c'est parce que, c'est très subtil, mais parce qu'il était dans une boîte avec des comportements un peu masculins où il va y avoir une gestion de l'emploi qui est un peu implicite. Il va pas y avoir des RH qui vont réguler un peu la manière, les promotions, les embauches, ça va être le chef, tu t'entends bien, tu t'entends pas avec lui, tu vas boire des coups le soir, tu vas pas boire des coups le soir, tu joues au foot, tu joues pas au foot, enfin voilà, vous voyez l'idée, et que lui, n'étant pas dans ses modes de socialisation, on a été pénalisé, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, des choses comme ça, des traitements, on va vous refuser une embauche parce qu'on se dit que le public n'est pas prêt à voir une personne racisée, enfin voilà, des choses comme ça, c'est pour ça que discriminatoire, je l'ai plutôt mis du côté de la manière dont les journalistes vont être traités en termes contractuels, professionnels, plutôt que sur ces choses qui sont plus symboliques mais qui en fait sont le cœur de la thèse.
Voilà, c'est assez impressionnant et de se dire aussi que certains sujets peuvent être refusés justement, ben non ça n'a pas intéressé notre lectorat parce qu'évidemment comme on parle de communauté, on va continuer avec ce terme-là, hein, de communauté minorisée, ben, ça ne va évidemment pas intéresser le grand public, sauf si c'est croustillant.
Oui, exactement. Dans les biais dont je parlais tout à l'heure, les routines, l'une des routines principales, ça va être de considérer, enfin quelque chose que les journalistes rapportent, c'est qu'on va leur dire, donc c'est pas assez concernant. Concernant, c'est quoi ? C'est l'idée, comme le mot l'indique, que le public serait concerné à la fois par ce qu'il est et à la fois parce que l'information en elle-même est concernante pour le public qu'on vise. Et donc, dans les rédactions, il y a cette idée que parfois, on va se dire que les personnes minorisées ne font pas partie du public qui consomme son propre média. Que finalement... on n'a pas vraiment de personnes LGBT dans notre lectorat, que finalement on n'a pas vraiment de personnes racisées dans les gens qui nous écoutent. Voilà. Donc c'est des journalistes, j'ai un exemple en tête, une journaliste qui propose de faire un article sur l'ouverture du bar The Agenda à Bruxelles, qui a ouvert il y a 2-3 ans maintenant je pense, et à qui on va dire, c'est intéressant, enfin c'est pas inintéressant dans l'absolu, il n'y a pas un rejet a priori, mais on va lui dire, n'oublie pas que dans notre lectorat, c'est plutôt des gens de 50 ans de Wallonie. Sous-entendu, dans notre lectorat, il n'y aurait peut-être pas de personnes susceptibles de fréquenter ce bar. Donc là, on retombe sur une routine qui est compliquée parce que c'est une grande question aussi dans les rédactions actuellement. Est-ce qu'on doit donner aux gens les informations qui les intéressent ou est-ce qu'on doit leur en apporter des qui ne les concernent pas parce que le monde est ainsi et qu'on doit parler de tout ? C'est aussi une grande question actuellement dans le cadre de comment on règle cette crise de confiance vis-à-vis du journalisme. Donc c'est une question beaucoup plus large.
Oui, d'autant plus que maintenant, avec l'accès aux réseaux sociaux, on a accès à tout, à toute l'info et à toute l'info qui nous concerne. Donc, quelle est encore la place du média là-dedans ? C'est vraiment la question. Et justement, on se dit qu'on est en 2026, qu'on parle énormément de tout ce qui est validisme, racisme, sexisme, LGBTphobisme, etc., et que justement, on pourrait avoir quelque chose de plus ouvert quelque part dans le métier. Parce que là, du coup, dans ce que vous dites, on a l'impression qu'en fait, la personne la plus neutre et la plus objective reste, de nouveau, je casse pas du sucre, sur l'homme blanc, quelque part, hétéro cisgenre, quoi. Il est la norme, il est la neutralité, l'objectivité.
Alors, c'est à nouveau quelque chose qui apparaît dans la thèse, qui est apparu plutôt dans les entretiens et sur lequel je n'avais pas forcément assez de données pour aller plus loin, c'est que le monde évidemment a changé depuis 10 ans. Il y a eu des évolutions sociales dont on ne perçoit pas forcément toujours au quotidien les impacts. Et donc là, on est en train de raconter les difficultés depuis tout à l'heure. Il est clair qu'il y a des volontés de faire mieux depuis 10, 15, 20 ans qui n'existaient pas avant. C'était pas, comment dire, dans le cadre de la thèse, il y a une partie qui est un peu un historique de comment la question de la diversité arrive dans le journalisme belge francophone. Ce n'est quasiment pas une question avant 2010. Ça en devient une de manière assez massive après. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs historiques, sociopolitiques qui font que ces questions-là finissent plus ou moins par s'imposer, et puis les manières dont elles s'imposent également. Donc je dis ça parce que il y a quand même des choses qui ont été faites dans les rédactions depuis 10, 15, 20 ans. Il y a quand même une volonté dans la plupart des rédactions d'avoir d'autres journalistes et de conquérir un public plus divers. Parfois, d'avoir des journalistes pour conquérir un public plus divers, ce qui là pose une question en termes de... Enfin, de traiter les gens de manière un peu utilitariste, on va dire. Parfois, ça va se limiter à des groupes de travail. Genre, à Belga, il y a une personne qui a été nommée pour travailler sur les questions de diversité, une journaliste. À ma connaissance, c'est pareil au Soir, etc. Donc, même dans un contexte qui, en ce moment, international, n'est pas forcément très favorable à la diversité, on n'est pas en train d'abandonner ces questions. Peut-être que l'enjeu se situe autour des outils qu'on déploie pour faire avancer ces questions et des ambitions qu'on se donne. Et je reviens au postulat de départ. Et donc, c'est un peu là où je vais resituer la thèse dans ces grands débats. Et on est en 2026, on s'est beaucoup reposé sur ce postulat de avoir des personnes amènera des contenus. C'est peut-être complexifié tout ça aujourd'hui, l'étape qu'on doit passer. Mais il y a une volonté, en tout cas des rédactions. La question, je crois, à se poser, c'est celle autour de la neutralité et de l'objectivité. Et sur plusieurs aspects, il y en a un qui est très concret, qui est la question, et ça concerne les femmes musulmanes, qui est du port du foulard. Où aujourd'hui, il y a des rédactions qui refusent les personnes qui vont porter un foulard. Et donc, ces personnes ne peuvent pas accéder à ces rédactions, ne peuvent pas exercer leur métier. Et c'est des dispositions qui... Alors, pas d'un point de vue pénal, j'en sais rien, mais qui, d'un point de vue descriptif, sont discriminatoires puisqu'elles leur empêchent d'accéder à ces rédactions. Et c'est des débats permanents avec certains responsables. Et pour l'instant, la porte n'est pas en train de s'ouvrir dans le sens de ces journalistes. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se jouent. Et puis après, il y a aussi cette question de la neutralité de manière encore plus flottante, de à qui on va reconnaître la capacité à être neutre ou à qui on ne la reconnaît pas. Et ça, le fait que les journalistes minorisés rapportent massivement des assignations à une position engagée, comme c'est le cas en tout cas dans les récits livrés dans cette thèse, c'est un enjeu sur lequel les rédactions vont devoir travailler.
C'est ça l'avenir du journalisme, quelque part.
Je ne sais pas si c'est l'avenir du journalisme, mais en tout cas, on m'a beaucoup demandé après la thèse, est-ce que tu penses que... qui doit lire ta thèse? Est-ce que tu penses que les rédactions vont s'en emparer, etc. Et Je serais ravie que ce soit le cas, hein. Mais je crois qu'il y a cet enjeu vraiment autour de ces discours sur la neutralité, l'objectivité. Et encore une fois, je comprends, hein, c'est quelque chose de symbolique, flottant, ça peut paraître très peu concret finalement quand on en parle. S'il n'y a pas une réflexion qui est menée sur qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, qu'est-ce qu'on attend des journalistes, à qui est-ce qu'on va décrire comme l'étant ou ne l'étant pas, je ne suis pas certaine qu'on puisse passer l'étape suivante pour aller encore plus loin sur ces politiques de diversité.
Je crois que c'était le mot de la fin, en fait. Et ça pourrait entraîner une nouvelle thèse, quelque part.
Oui.
Comme thématique.
Oui, thèse, post-doc, voilà. Projet de recherche. Oui, j'espère que d'autres personnes s'empareront de ces sujets en Belgique francophone, en tout cas.
En tout cas, c'est ce que nous allons suivre, en tout cas, et ce que nous allons regarder. Merci, en tout cas, Elena Loison. Merci beaucoup d'être venue et de nous avoir partagé cette thèse. Ça a pris combien de temps, cette thèse?
4 ans.
Oh, ben ça va, c'est pas mal, hein.
Ça va.
Ça va. Voilà, 61 personnes interrogées. Et donc, on peut la lire, on peut trouver des articles, on peut vous suivre quelque part.
Elle est disponible en ligne sur le site de l'ULB.
Excellent. Eh bien, voilà. Eh bien, si vous voulez connaître le monde du journalisme aujourd'hui avec des journalistes, donc la diversité des journalismes dans les rédactions francophones, eh bien, n'hésitez pas. Elena Loison, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à une prochaine fois, alors. Au revoir.
Au revoir.
Boulevard Général Jacques, 14 septembre 2019.
Elle est seule.
Elle ponce l'être.
L'ordinateur encore planté.
Ce connard de Bertrand s'est encore plaint devant l'imprimante.
Elle sort de l'immeuble. Le visage caché dans un châle.
Derrière
elle, la rue est pleine de passants.
Elle dit... distingue des yeux entre le volet battant.
Son regard fuit et avance parmi les bruits ambiants.
Les gouttes rasent les murs. Elle ne se retourne pas.
Sous ses talons,
les pavés bougent et font résonner le son de ses petites pattes. Elle cherchait à plaire, elle a le mal de vivre.
Des saucisses cocktail pour aller avec son cocktail.
C'est audacieux.
les chips, les pâtes, les chips, ça l'agace, les bières, ça l'agace, et encore tout ça,
ça l'agace.
Et elle met tout par terre, elle va au supermarché, et elle met tout par terre.
Elle n'est plus rien, de toute façon.
Tout est en désordre.
Et le désordre, ça lui plaît énormément.
Le désordre, c'est son ordre à elle, c'est ce qui l'apaise. Elle ouvre la boîte de saucisses cocktail et les mange à pleines dents, les suce autant.
Et elle pousse encore. La dernière cigarette n'était pas la dernière. Elle en reprit une autre.